Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Rencontre avec. La Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation. Deuxième épisode, les nazis étaient des hommes comme les autres, la parole silenciée de Douglas Kelley, psychiatre à la prison de Nuremberg. J'ai découvert, grâce au film Nuremberg, l'existence de Douglas Kelley et en particulier de sa parole silenciée, les nazis sont des êtres humains comme les autres. J'avais retenu, comme tout le monde, la pensée de Hannah Arendt, qui parlait, quant à elle, de banalité du mal, avec un M majuscule, pour déresponsabiliser l'humanité de l'extermination des Juifs d'Europe et accuser le diable, une entité maléfique, hors de l'humanité. Kelley, quant à lui, cherchait des raisons biologiques. Il a découvert qu'il s'agissait d'hommes banals, semblables et identiques à nombre d'entre nous, contrôlés par leurs émotions, comme il le souligne dans « Les 22 de Nuremberg », dans la tête des nazis, à la fin du chapitre « Le pangermanisme et l'idéologie ». Hitler a trouvé un peuple déjà conditionné par plusieurs idéologies explosives, frustré par la défaite, affamé, épuisé par l'inflation et homogène. Il a gagné leur attention en leur promettant des solutions aux problèmes les plus urgents, à savoir la nourriture et le logement, ainsi que de les laver de l'humiliation de la défaite. Il a ensuite pris le contrôle émotionnel de ce peuple en faisant appel à ses croyances et concepts conditionnés, l'antisémitisme, les mœurs tribales d'une nation guerrière, etc. À partir de là, il en a fait ce qu'il voulait. Il est scientifiquement prouvé qu'une personne qui pense avec les centres émotionnels thalamiques du cerveau ne peut pas penser intellectuellement, corticalement. Hitler a amené tout un peuple à penser avec son thalamus. Dans cet état, ils sont devenus des proies faciles pour Goebbels, Streicher, Ley et les autres propagandistes. Pour ceux qui refusaient de penser émotionnellement et de le suivre, il y en avait encore après 1933, il a imaginé les camps de concentration. Et il y avait toujours le mur de la prison criblé de balles. À cette découverte fondamentale, les nazis sont des êtres humains comme les autres, il ajoute qu'ils sont aussi conduits par leurs émotions. Dans le dernier chapitre, nommé « Qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis ?», il ajoute « Sommes-nous donc si différents de ces peuples auxquels le totalitarisme a été imposé de manière douloureuse et brutale ? La réponse est que, pour autant que je puisse en juger, il n'existe pas de différence fondamentale entre l'Allemand et l'Américain, si ce n'est que l'Allemand croit plus ardemment à ses idéologies. Il est vrai que la nation allemande possède une culture plus homogène, une langue commune, une philosophie commune, peut-être sur une période beaucoup plus longue que celle durant laquelle nous avons été une nation. Par conséquent, l'Allemagne était plus facilement influençable par une propagande habile. Mais mis à part notre manque d'homogénéité et tout ce que cela implique en termes d'origines diverses, de systèmes bipartites et de garanties juridiques des droits des minorités sur le papier, je suis convaincue qu'il existe aujourd'hui peu d'éléments en Amérique susceptibles d'empêcher l'établissement d'un État de type nazi. Une telle affirmation peut sembler extravagante. On pourrait y répondre. Nous n'avons ni les dirigeants, ni les idéologies, ni les concepts fondamentaux que de tels dirigeants potentiels pourraient exploiter. Examinons les faits. En ce qui concerne les dirigeants, les Hitler, les Göring, les Goebbels et les autres n'étaient pas des cas exceptionnels. Leur personnalité indique que même s'ils n'étaient pas des individus socialement désirables, on pourrait très facilement trouver leur équivalent en Amérique. On rencontre dans n'importe quelle clinique psychiatrique des individus névrosés comme Adolf Hitler, souffrant de troubles hystériques et obsessionnels. Il existe des centaines de personnes similaires, frustrées, découragées, déterminées à accomplir de grandes choses, qui errent aujourd'hui dans les rues de n'importe quelle ville américaine. Les personnalités fortes, dominantes, agressives et égocentriques comme Göring, qui se distinguent principalement des personnes ordinaires par leur absence de conscience morale, ne sont nullement rares. On les trouve partout dans le pays, derrière de vastes bureaux, où elles prennent des décisions importantes en tant qu'hommes d'affaires, politiciens ou racketteurs. Les tribuns et les écrivains rusés, habiles et dépourvus de scrupules comme Goebbels, les négociateurs influents comme Ribbentrop, ainsi que les parasites financiers et juridiques figurent parmi des hommes dont les visages nous sont familiers. Les agitateurs politiques du type Streicher ou Lay peuvent être rencontrés dans n'importe quelle réunion politique. Et je suis convaincue que, dans nos forces armées, nous pourrions trouver des généraux ou des colonels habiles et politisés, prêts à s'associer à un parti capable de leur assurer une ascension rapide vers les plus hauts échelons. Non, les dirigeants nazis n'étaient ni des figures spectaculaires, ni des personnalités surgissant une fois par siècle. Ils partageaient simplement trois caractéristiques banales auxquelles s'ajoutait l'opportunité de s'emparer du pouvoir. Ces caractéristiques étaient les suivantes: une ambition démesurée, des normes éthiques peu élevées et un nationalisme exacerbé justifiant tout ce qui était accompli au nom de la germanité. C'est là que Douglas Kelley ajoute une nouvelle pensée: les nazis avaient en commun, avec nous, le racisme. Regardons autour de nous. N'avons-nous pas parmi nous des ultranationalistes, prêts à approuver n'importe quelle politique aussi néfaste soit-elle, dès lors qu'elle pourrait être présentée comme avantageuse pour l'Amérique? N'avons-nous pas des hommes si impitoyablement avides de pouvoir qu'ils n'hésiteraient pas à piétiner les cadavres de nos minorités si cela leur permettait d'exercer un contrôle totalitaire sur le reste d'entre nous? Voilà pour les dirigeants potentiels d'un nazisme américain. Qu'en est-il des partisans? Aussi choquant que cela puisse paraître à certains, nous ressemblons beaucoup, en tant que peuple, aux Allemands d'il y a deux décennies. Nous partageons un contexte idéologique très similaire et la même tendance à fonder notre réflexion sur des évaluations émotionnelles plutôt qu'intellectuelles. Personne ne peut nier que les arguments fondamentaux utilisés par Hitler, l'exigence de persécuter les minorités, de bâtir une nation plus forte, de confier le pouvoir aux anciens combattants, de soumettre les entreprises privées au contrôle de l'État, sont aujourd'hui présents aux États-Unis. Il est profondément troublant de revenir de Nuremberg en Amérique et de constater que les mêmes préjugés raciaux prônés par les nazis sont ici attisés par les mêmes mots que ceux qui résonnaient dans les couloirs de la prison de Nuremberg. Il ajoute encore plus loin. Pire encore, nous voyons certains de nos principaux responsables politiques, membres des plus hautes instances gouvernementales, tenir des propos qui feraient honneur à Rosenberg, Hitler ou Goebbels. Et nous ne devons pas oublier ce qu'il est advenu de millions d'êtres humains lorsque le ridicule Rosenberg a eu l'occasion de mettre en pratique les théories raciales dont il avait longtemps empoisonné son esprit. Il apporte alors une nouvelle réflexion sur le pouvoir de la parole. Il est intéressant de noter que von Schirach, Frick, Speer et d'autres nazis moins fanatiques ont tous déclaré: il ne semblait pas possible que cela pût réellement se produire. À l'époque où le parti se formait, nous écoutions ses discours, ce n'était que des discours. Aucun d'entre nous n'imaginait qu'il puisse mener à la mort d'êtres humains. Nous pensions écouter de la propagande politique, nous avons nous-mêmes tenu les mêmes discours, nous n'aurions jamais cru que cela irait aussi loin. Le pouvoir de la parole a été souligné à maintes reprises. En réalité, les êtres humains, à leur stade actuel de développement, sont plus sensibles aux mots qu'à la raison. Nous nous laissons submerger par des assauts émotionnels et les utilisons à notre tour pour tenter de détruire les concepts et les idéaux des autres. Douglas Kelley affirme alors que c'est le racisme et les émotions liées au racisme qui ont poussé à l'extermination des Juifs d'Europe. Il fait remarquer que ces mots sont toujours employés au moment où il écrit aux États-Unis, en 1946. Ils utilisent le racisme comme un instrument permettant d'obtenir le pouvoir personnel, la gloire politique ou l'enrichissement individuel. Nous tolérons que le racisme soit employé à ses fins dans notre pays. Je suis convaincue que l'usage persistant de ces mythes nous conduira, tôt ou tard, à rejoindre les criminels nazis dans les égouts de la civilisation. Je laisse à l'auditeur le soin de comparer l'actualité de 2026 aux avertissements qu'il émettait déjà en 1946. Je suis convaincue que l'usage persistant de ces mythes nous conduira tôt ou tard à rejoindre les criminels nazis dans les égouts de la civilisation. Il ajoute « Malgré les leçons de l'histoire aux États-Unis aujourd'hui, les idéologies nazies se transmettent de parents à enfants, d'enseignants à élèves, d'auteurs à lecteurs. En nourrissant le racisme et des attitudes raciales autochtones similaires, nous risquons de voir se développer ici même un État totalitaire. » Il rappelle aussi qu'Hitler est parvenu au pouvoir démocratiquement et légalement grâce à Von Papen qui le nomma chancelier le 30 janvier 1933. À partir de ce moment, il s'interroge sur la méthode pour empêcher l'avènement d'un État totalitaire. Notre premier devoir est de voter. Et si nous voulons nous prémunir contre le totalitarisme, nous devons avant tout supprimer toutes les restrictions au droit de vote pour l'ensemble des citoyens. Il est temps de rendre le scrutin véritablement libre, d'abolir la capitation et les autres entraves au droit de vote. La capitation était une taxe d'un montant fixe pour chaque personne assujettie, quel que soit son revenu, qui a été utilisée aux États-Unis jusqu'en 1965. Deuxièmement, à chaque élection, chaque citoyen disposant du droit de vote doit l'exercer. Plus le nombre de suffrages exprimés est élevé, plus il devient difficile pour une minorité guidée par une machine organisée de contrôler le résultat des élections. Troisièmement, nous devons refuser de voter pour quiconque tire un avantage politique de termes chargés d'émotions telles que juif ou gentil, protestant ou catholique, blanc ou nègre. Nous devons également nous efforcer de nous libérer de l'usage traditionnel et émotionnel de ces termes et d'autres de même nature, oriental, sang, race, etc. Enfin, nous devons réformer notre système éducatif afin d'apprendre aux élèves à penser. Il nous faudra peut-être même reconstruire nos habitudes linguistiques en éliminant les généralités qui, en réalité, ne signifient rien, mais qui provoquent de fortes réactions émotionnelles chez les esprits irréfléchis. Si nous mettons en œuvre ces quatre mesures, simples à énoncer mais extrêmement difficiles à appliquer, nous aurons posé les bases d'une démocratie politique fonctionnelle, en accordant à chaque citoyen les droits inhérents à une telle démocratie. Les États-Unis n'atteindront jamais leur pleine stature tant que cela ne sera pas accompli. Nous n'atteindrons évidemment jamais cet objectif tant que nous, en tant que peuple, ne nous serons pas développés individuellement au-delà de notre adolescence émotionnelle actuelle. Une nation ne peut pas être mature si elle est composée de citoyens infantiles. En tant que psychiatre dans l'armée, j'ai acquis la conviction qu'un pays qui a produit des milliers de jeunes hommes infantiles était lui-même émotionnellement immature. Trop peu de soldats et trop peu d'officiers faisaient preuve de réflexion. Un pourcentage effrayant d'entre eux présentait un âge émotionnel et intellectuel d'environ 10 ans. On peut dire à juste titre que les Allemands se comportaient comme des enfants sous le régime d'Adolf Hitler. Nous ne sommes pas encore réduits à un tel état, mais nous sommes, à l'image de Rudolf Hess, au bord du précipice. Enfin, il conclut, dans son dernier paragraphe, « C'est à nous qu'il appartient de décider s'il faut encourager la haine et les préjugés raciaux. C'est à nous de déterminer si nous tirons les leçons de l'Holocauste européen et si nous les appliquons à notre propre vie. C'est à nous qu'il revient de bâtir une nation véritablement démocratique, dans laquelle nos enfants et nous-mêmes pourrons vivre sans querelle ni haine, dans une sécurité émotionnelle fondée sur la maturité collective. » Il va sans dire que la parole de Douglas M. Kelley n'a jamais été entendu et a été silencié. Comme l'écrit Jean-François Goulon, son traducteur français, ses travaux le persuadèrent qu'il suffirait de circonstances politiques favorables pour que des personnalités similaires basculent à nouveau dans les ténèbres de l'histoire, en semant la haine contre des boucs émissaires, comme l'avaient fait Hitler et Göring. Comment ne pas être hanté par cette idée quand on a côtoyé d'aussi près les plus grands criminels du XXe siècle ? Personne ne prêta attention à ces avertissements et son livre fit un flop. Pourquoi n'avons-nous pas entendu la parole de Douglas Kelley ? Pourquoi n'avons-nous pas entendu ces avertissements ? Qu'avions-nous à y perdre ? Quel ordre du monde pouvait en être troublé ? L'actualité de 2026 lui donne malheureusement raison. Il proposait des solutions. Il est peut-être temps de les suivre. C'était « Ma rencontre avec les nazis étaient des hommes comme les autres », la parole silencieuse de Douglas Kelley, psychiatre à la prison de Nuremberg.